Dutrisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
Faisons le tour de la politique fédérale et provinciale avec Vincent Poilier et Antoine Robitaille. Bonjour à vous deux.
Hey, bonjour.
Salut, bon. Salut. Hey, je viens d'entendre la promo d'Antoine. Justin Trudeau a répondu à la question sur le référendum en Alberta.
Alors? Intéressant.
Même si un oui, il dit non, il va falloir qu'il parle aux autres provinces. Il va falloir qu'il y ait au moins 7 provinces qui représentent 50% de la population canadienne qui décident de changer ça pour qu'on change quelque chose. Donc, avant qu'il y ait des négociations, il dit « Jason Kenney convaincra les autres provinces. Moi, je ne m'assois pas à table avant ça. »
Oh, je ne respecte pas l'obligation de négocier.
OK, pas de musique érotique pour Robitaille, c'est bon. Ça me rassure.
C'est le fun, ça titille.
Passons à travers ce point de presse au fédéral avant d'aller à la province. D'abord, nouveau programme d'aide pour remplacer la PCRE. Envoyer de l'argent, des milliards, il y en a, il y en plus.
Oui, 7,4 milliards, là, mais c'est quand même pour des programmes qui vont être jusqu'au 7 mai. Et le gouvernement fédéral a cette fâcheuse tendance à annoncer des beaux programmes, de l'argent, mais à ne pas donner des documents. Donc, il faut comme écouter Mme Freeland qui parle, qui est pas très, très concise et très claire parfois sur quels sont les nouveaux programmes. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Quand j'aurai les documents, je serai en mesure de te donner plus d'informations. Mais on prolonge ce qui est subvention salariale et aide au loyer. Et on prolonge l'aide à l'embauche. Donc, les mesures d'aide pour les entreprises, on les prolonge jusqu'au 7 mai. Par contre, si vous aviez la PCRE, ben ça va se terminer samedi le 23, et on va travailler sur un nouveau programme qui va pouvoir être mis en place dans des régions, dans des villes, dans des provinces où on aurait, par exemple, des fermetures complètes de certains pans de l'économie. Donc, pour aider ponctuellement des pans de l'économie. Pour ce qui est des congés de maladie, on travaille là-dessus là, pour qu'il y ait des congés plus permanents. Puis on garde aussi les prestations d'aide là, pour les proches aidants, pour permettre à des gens, justement, là, d'aller avec un enfant qui aurait la COVID, par exemple, sans perdre leur emploi. Donc, on prolonge les mesures pour les entreprises, mais la fameuse PCRE, on a décidé que c'en était assez, vu que la plupart, partout dans l'économie, ou presque, on a commencé à rouvrir et à retrouver une certaine normalité, et aussi, on a une pénurie de main-d'œuvre.
Mm-hmm. Bon, et le troisième, huitième, quinzième passeport vaccinal, on va en avoir combien dans notre téléphone, nous autres, au Québec?
Juste deux, finalement. Je vais revenir sur la critique, là, mais au fond, ce que le gouvernement a dit aujourd'hui, c'est qu'il y avait une norme canadienne qui allait être reconnue à l'international, et il y a des provinces qui l'avaient déjà adoptée, notamment le Québec. Donc, l'annonce de Christian Dubé sur le passeport vaccinal pour voyager à l'intérieur du Canada sera le même que pour voyager à l'extérieur. Il va juste falloir que vous vous assuriez que la preuve vaccinale que vous allez imprimer, elle est le beau petit logo du Canada et non pas celle du Québec pour pouvoir voyager à l'international. Et ça amène à la critique de... Ça fait quand même quelques moments, là, quelques mois qu'on pose des questions à Justin Trudeau sur le passeport vaccinal. Peut-être qu'Antoine ne sera pas d'accord avec moi, mais à un moment donné, il savait que ça allait s'en venir. Il savait qu'on allait avoir besoin d'un passeport vaccinal. Il aurait pu en mettre un en place, concret, pareil pour toutes les provinces. Puis après ça, les provinces décident de l'utiliser comme elles le souhaitent. Mais ça aurait été une belle utilisation, ça, de la fédération et du gouvernement fédéral, de dire « voici l'outil ». C'est un outil simple, pareil à travers le pays, mais après ça, dans la façon de l'utiliser, les provinces auraient pu le faire.
Monsieur Robitaille?
Non, c'est une compétence des provinces. C'est aux provinces de décider.
Je dis dans l'utilisation, l'avantage.
Mais heureusement qu'il y a eu une campagne électorale pour arriver à cette annonce-là. Vraiment, là, ça a valu la peine.
Ça pressait, hein? 600
ouais.
millions?
Oui, oui. Service de garde, Antoine?
Oui, c'est vraiment une grosse journée aujourd'hui dans la capitale provinciale. Deux importants projets de loi, donc service de garde, comme tu dis, on a déposé un projet de loi. Ça fait partie d'un plan pour accélérer la création de 37 000 places en CPE. On sait que le ministre actuel, là, il a promis 13 000 places au début de son mandat. Il y en a même pas. Il y a quelques milliers de places qui ont été créées. À la mi-mandat, il a dit, il n'y a plus rien qui marche. C'est un système tellement compliqué qu'il faut tout refaire. Puis, il avait promis encore des places. Puis, bon, il n'y a rien qui est arrivé aussi à cause de la COVID. Là, il décide de prendre le taureau par les cornes. Et c'est François Legault aussi là, qui va s'en mêler aujourd'hui. Ils vont présenter le plan complet qui vise à accélérer la création. 37 000 places, il en a parlé dans son discours d'ouverture, mais écoute, moi je savais là, que ça serait pas avant les prochaines élections. Là. C'est dans 4 ans.
Mais là, les enfants...
Le premier ministre aurait voulu dans 3 ans.
Mais ils ont besoin d'une place là, pas dans 4 ans. Ils vont être à l'école dans 4 ans.
Le ministère et le ministre disaient c'est dans 5 ans qu'on va pouvoir livrer ça.
Ben non.
Le premier ministre disait 3 ans, ils sont entendus pour 4, mais écoute, ça leur prendrait, sais-tu combien d'éducatrices? 17 800. Où est-ce qu'ils vont y prendre?
Je sais pas.
Il va peut-être avoir une loi pour conscrire. Il va peut-être avoir une conscription. J'ai aucune idée. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'indication claire là-dessus.
Je pense qu'ils consultent les mauvais experts. Ils devraient rappeler Tony Tomassi. Puis lui, il en ferait des places.
Hey, t'anticipes sur mon point 3.
Arrête donc.
Oui.
J'ai pas vu.
Oui.
Ouais,
Je veux juste dire aussi que premier volet du réforme du droit de la famille a été déposé. C'est un projet de loi important, notamment pour ce qui est comment on appelle ça déjà?
Premier mot. Sancom.
Famille.
Famille. Garderie.
Droit.
Gestation pour autrui, voilà, trouvé.
Oui.
La gestation pour autrui, les mères porteuses, parce qu'on sait que le Code civil avait comme interdit les contrats de mères porteuses. Là, on va quand même permettre des conventions de mères porteuses. On pourra pas se faire payer pour être une mère porteuse. On va pouvoir rembourser certains frais, mais pas plus que ça. Mais quand même, là, le projet de loi est bien accueilli. Je te dis, je sais pas comment il fait, Simon-Jean Barrette. Ça fait combien de gros projets de loi qu'il y a? Il y a la langue, tribunal spécialisé, et là, droit de la famille. C'est juste un des deux volets, là, tout a été déclenché par l'affaire Lola contre Éric, on s'en souvient. Mais je n'en dis pas plus.
Il y a beaucoup de temps de glace, hein, M. Jolin Barrette?
En tout cas, il embrasse plusieurs et parfois plusieurs projets de loi et parfois, quand on embrasse trop, on mal étreint. On étreint mal.
Bon, alors, déclaration de M. Fortin sur la mafia.
Oui, c'est un clin d'œil. André Fortin, tout à l'heure, qui a quand même fait une erreur, c'est le leader parlementaire des libéraux, qui a dit « Tout le monde doit faire sa part pour lutter contre la montée de la violence à Montréal, y compris la mafia. » C'est à la suite de notre article dans le journal qui disait que les policiers étaient allés voir la mafia pour dire « Pouvez-vous calmer le jeu, s'il vous plaît, arrêtez de vous tirer dessus. » À un moment donné, le titre sur notre page, c'était « La mafia doit faire sa part. » Je dis ça pour annoncer mon troisième sujet,
ouais.
Ou sujet, quand on dit au Saguenay, qui a eu
sujet.
Un gros chahut en chambre aujourd'hui. Pourquoi? C'est d'abord autour des primes pour les infirmières. Là, Christian Dubé a dit que ce qui était écrit dans le Devoir, c'était faux. C'était un document qui avait circulé qui disait qu'on annulait finalement toute la prime s'il y avait un congé sans ça de la part de l'infirmière. Ça, c'est faux. Bon, deuxièmement, donc, les esprits étaient déjà échauffés. Ensuite, est arrivé Marc Tanguay qui a posé une question légitime, la question, mais qui a fait boomerang. C'est, évidemment, quand les libéraux parlent d'intégrité. Hein? Donc, il a dit, est-ce que le gouvernement a toujours confiance dans le numéro 2 de l'UPAC, Sylvain Bayarjon, parce qu'il a été complètement varlopé par le tribunal dans l'affaire sur le maire de Terrebonne. Le tribunal a dit que Sylvain Bayarjon, le numéro 2 de l'UPAC, avait commis un affront à la justice. Alors, Marc Tanguay dit, désormais, c'est nous les parlementaires aux deux tiers qui nommons les dirigeants de l'UPAC, ben si on peut nommer aux deux tiers, on peut destituer aux deux tiers. Donc, est-ce que la ministre, Geneviève Guilbeault, a toujours confiance en ce numéro 2 de l'UPAC? Et j'ai un court extrait, 32 secondes, on va voir que ça a créé vraiment tout un chahut.
On a le pouvoir de le nommer. Lui, on a le pouvoir aussi de le destituer. Vous avez nommé le 18 mars 2020. Le gouvernement du Québec procède aujourd'hui à la nomination de Sylvain Bayarjon.
Et Monsieur le Président, s'il y a un parti qui a donné de l'ouvrage à l'UPAC au travers les années, c'est bien le Parti libéral. Fait que j'invite, venant de la part en plus du député de La Fontaine, qui a été président du Parti libéral et qui succède.
Monsieur le leader, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Ouais, donc il y a eu beaucoup d'interruptions parce que là, c'est un peu. Tu te souviens de Dale Hunter, les Nordiques, qui passait toujours le gant au visage de tous les joueurs. C'est, Geneviève Guilbeault est un peu la Dale Hunter là, dans cette affaire-là, parce qu'elle a vraiment. Elle, à un moment donné, j'étais en chambre, j'étais dans les tribunes, elle a même montré le livre PLQ Inc. aux libéraux. Ça a vraiment bardé. Et dans le couloir après, on a posé des questions à Mme Guilbeault. Est-ce que, effectivement, vous avez confiance en Sylvain Baillargeon? C'est vous qui, tu sais, c'est quand même le gouvernement qui l'a nommé avec l'appui des deux tiers. Là, elle a dit, ah, tout ça est devant les tribunaux. Il va peut-être avoir appel. Donc, je peux rien dire. C'est vraiment plate parce que c'est une très bonne question.
Philippe Vincent.
Ben, c'est vrai que c'est une bonne question. Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils y répondent. C'est facile de faire de la diversion. C'est facile d'accuser les libéraux là-dessus. À un moment donné, si l'UPAC veut avoir la crédibilité, le gouvernement doit lui la donner. Si on ne répond pas à cette question-là, c'est un peu comme si Jeff Molson, on lui posait la question sur Marc Bergevin, êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Puis, ben, l'autre équipe, elle joue moins bien que nous autres. À un moment donné, il va falloir répondre parce que sinon, ça fait un peu poète.
Mais si l'UPAC veut de la crédibilité, qui commence par travailler comme du monde, qui arrête de cacher des témoins, qui arrête d'écouter des conversations entre avocats et leurs clients, qui apprennent, je sais pas, les rouages de la justice, mais ça a l'air d'une gang de pee-wee d'amateurs.
Ben oui. Puis le gouvernement qui est responsable de l'UPAC doit répondre à des questions comme ça. Puis l'Assemblée nationale, aux deux tiers, a aussi une responsabilité. Donc, c'est correct que ça fasse partie des débats. Après ça, c'est sûr que les libéraux ont quand même des petits des casseroles qui leur sont collées aux genoux
oui,
depuis.
Pour rappeler ça, que quand Geneviève Guilbeault dit, bon, Marc Tanguay était président du Parti libéral à une époque où vraiment là, tu sais, on ramassait des tonnes de fric. C'était vraiment une machine à ramasser de l'argent. Mais aussi, Marc Tanguay succède à qui? À Tony Tomassi, hein, c'était le député de La Fontaine avant.
Qu'est-ce qui est arrivé à Tomassi? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Oui, comment il va?
Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu, il est devenu indépendant. À un moment donné, il se présentait même plus à l'Assemblée nationale, mais il têtait son salaire.
Il a été blâmé, hein. Oui, surtout de Jacques Saint-Laurent dans le temps. C'était le commissaire à l'éthique édenté.
Oui. les jeunes, je vais vous faire mal, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Tony Tomassi? Parce que là, tantôt, j'avais Lino Zambito en début d'émission. Puis, tu sais, t'es obligé de constater qu'il y a eu des arrêts de procédure pour tout le monde. Puis, la majorité s'en sont tirés sans réelles conséquences.
Mais pas dans son cas. Il a été reconnu coupable.
Mais c'est ça. Est-ce qu'il a fait de la prison? Je me souviens pas. Tony Tomassi, check down pendant que tu tapes.
C'est ça que je fais. Là.
Ouais, c'est ça.
on est tous en train de regarder. Ouais. Déclaré coupable.
Pas
je pense
moi.
Qu'il y avait eu des travaux communautaires à l'époque.
Ah,
240
oui.
heures de travaux communautaires.
Eh mon Dieu, ça c'est sévère.
Et il devait faire des dons à des organismes de charité.
Ouais.
Puis je sais pas si la fondation libérale
oui.
est une organisme.
Ah, il y a une couple de fondations là à qui il aurait pu donner de l'argent. C'est sûr. Bon, on s'arrête là-dessus, M. Foisy, M. Robitaille. Merci. À demain.
Au revoir.
Ah oui.